I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Il n'y a pas de recette. Surtout, je vais te dire un truc qui va peut-être un peu t'étonner, mais c'est que la plupart des mecs qui ont réussi dans la tech, une grosse partie, c'est de la chance. On est persuadé. Et les mecs qui pensent que c'est juste parce qu'ils sont bons, soit c'est des menteurs, soit c'est vraiment des mégalos, quoi.
Startup Nations, licorne, levée de fonds. Est-ce que ce ne serait pas un peu les clés pour faire fortune aujourd'hui ? On a discuté avec une star de la tech, Jean-Baptiste Kempf, tutoie Xavier Niel et d'autres multimillionnaires, mais en geek pur jus, il conserve un discours très critique sur cet Eldorado de la win. Les entrepreneurs inspirants et autres recettes innovantes pour soi-disant devenir riches en prennent pour leur grade. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Jean-Baptiste Kempf. Jean-Baptiste, tu as 39 ans. Alors, tu n'es peut-être pas forcément très connu du très grand public, mais je précise qu'on est très heureuse que tu aies accepté de parler de thunes avec nous, car tu es une véritable star, carrément une superstar du monde de la tech.
T'exagères pas un peu là ?
La légende qui te précède, ton fait d'armes, c'est que tu fais partie des gens qui ont inventé un petit programme que tout le monde utilise, qui s'appelle VLC. Le petit logo, c'est un cône de chantier. C'est un programme, je crois que tu m'arrêtes, il y a quelque chose comme 500 millions d'utilisateurs au moins dans le monde.
Ouais, c'est un truc comme ça.
Ça permet de lire des vidéos, principalement. Quand on parle de toi, souvent les gens te présentent en disant « Ah mais oui, c'est le type qui aurait pu devenir milliardaire si VLC c'était pas gratuit, si c'était pas en open source. »
Ouais, à peu près.
Alors, première question, est-ce que tu aurais pu être milliardaire si VLC avait été monétisé d'une façon ou d'une autre ?
Non.
Voilà. Clairement pas.
Clairement pas. La légende, elle craque comme toutes les légendes. Milliardaire, non. Plusieurs dizaines de millions, ouais.
Est-ce que ça aurait été possible de faire que ce petit programme devienne rentable ?
Oui et non. Alors en fait, pour répondre, en fait, il faut le remettre dans le contexte du projet. En fait, c'est un projet qui, à l'origine, est un projet étudiant qui commence dans la fin des années 90, bien avant que j'arrive dans le sujet. Parce que l'École Centrale Paris est un campus où, en fait, c'est les étudiants qui gèrent tout. Ils gèrent la télé, la radio, la cafette, le bar, etc. Et ils gèrent aussi le réseau informatique. Et à un moment, ils ont besoin d'un nouveau réseau informatique. Ils trouvent une idée, c'est de transformer et de transporter de la vidéo sur le réseau local. Et c'est 10 ans avant YouTube. Donc, c'était un peu de la science-fiction. Et ce projet aurait pu s'arrêter là. Mais fin des années 90, donc ça c'est milieu des années 90, fin des années 90, ils redémarrent le projet en disant « ça peut être utile à d'autres personnes et on va le rendre en open source ».
Alors, est-ce qu'on peut tout de suite définir ce que c'est que l'open source ?
L'open source, c'est grosso modo, c'est des communautés de développeurs qui se mettent ensemble et qui te donnent pas juste le logiciel, l'application, mais aussi la recette de cuisine.
Le code.
Le code. Je vais expliquer. C'est très simple. C'est la différence entre un gâteau au chocolat que ta grand-mère t'a donné la recette et que tu passes consciencieusement de génération en génération. La recette, c'est le code. Et je vais dans une boulangerie et j'achète un gâteau au chocolat. Quand l'open source, c'est la même chose avec des programmes informatiques. Donc, c'est la différence entre Word que tu télécharges ou une application que tu télécharges et une autre que non seulement tu peux utiliser, hein, comme ton gâteau au chocolat que tu peux manger, mais on te donne la liste de tout ce qu'il faut faire pour l'assembler. Et surtout, tu as le droit de le modifier. Par exemple, comme ton gâteau au chocolat, tu as le droit de rajouter du café parce que tu trouves que c'est meilleur. Là, tu peux faire la même chose sur ton programme. C'est-à-dire que bah, Word, tu prends ton Word, l'équivalent de Word, et puis bah, je vais modifier parce que je n'aime pas, j'ai besoin d'une fonctionnalité supplémentaire. Et donc, l'open source, c'est ça. C'est qu'en même temps que tu donnes le gâteau au chocolat, tu donnes la recette.
Et le projet de VLC, dès le départ, ce projet qui est un projet étudiant, il est fait dans cet esprit d'open source, le départ.
C'est un peu plus compliqué que ça. Quand ils redémarrent le projet fin 98 en se disant « ça va être utile », ils se disent qu'ils vont être open source, mais l'école ne veut pas. L'école centrale ne veut pas.
Pourquoi ?
Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le monétiser, récupérer de l'argent en revendant un peu la création. Et en fait, c'est en 2001, en février 2001, que ça devient open source.
Par la volonté des étudiants.
Ouais, par la volonté des étudiants. Avec l'accord de l'école qui se rend bien compte qu'ils ne vont pas réussir à le monétiser sans les étudiants. Donc en 2001, ça devient open source à l'école et c'est géré par une association de l'école centrale. Et le programme meurt quasiment, en tout cas le fin 2006, début 2007. Et moi, je pars un an aux États-Unis et je me mets de plus en plus dans VLC, donc pendant mes études. Donc moi, j'ai pas été... Enfin, d'abord, il n'y a pas d'inventeur à VLC, puisqu'en fait, c'est des générations et des générations d'étudiants. Ça, déjà, le mythe que j'ai créé VLC ou que je suis inventeur de VLC n'existe pas.
Vous êtes combien à peu près? Tu penses qu'il y a combien de personnes qui ont bossé sur ce projet?
Ça, je le sais exactement. Il y a à peu près 1000 personnes qui ont bossé sur VLC.
1000 personnes?
1000 personnes sur les 20 dernières années. En général, chaque année, tu as entre 100 et 150 personnes qui contribuent. Mais le cœur, c'est-à-dire grosso modo, tu as 50 personnes qui ont fait 90% du travail. Et donc sur l'association, personne n'a été rémunéré. Donc tout ça, c'est des gens qui sont bénévoles.
Il y a quand même des gens qui ont bossé pendant des heures, des jours, des semaines, des années, plus de 1000 personnes qui ont bossé gratos pour que ce truc existe et que je puisse m'en servir gratuitement.
Tout à fait.
Donc le montage économique pour qu'un truc comme ça existe, à part l'enthousiasme du temps et des gens qui ont déjà des moyens au départ, c'est compliqué.
Et voilà. Et donc ça pose un problème effectivement, c'est que la plupart de ces projets open source, les plus gros, en fait c'est des gens qui sont bien, qui sont déjà des informaticiens pour la plupart. T'as souvent des hommes blancs, quoi. Enfin c'est clair.
Pourquoi ils le font ?
À l'origine, parce que c'était marrant. Parce qu'en fait, tu travailles. La vidéo, c'est quand même le sujet, le multimédia, c'est le plus intéressant. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est beaucoup de maths, c'est de l'informatique qui est du temps réel. Donc, c'est vraiment les trucs les plus compliqués à faire. Et puis, niveau CV, moi, j'ai bossé là-dessus. C'est quand même génial. J'ai plein de gars qui sont passés à Central et qui ont fait du VLC. Aujourd'hui, sur le CV, il y a écrit VLC. Et 20 ans plus tard, ça les aide encore sur trouver du boulot. Ça donne une légitimité technique très importante. Voilà. Donc, tu as des gens comme ça. Et puis, tu as plein de gens un peu à travers le monde qui arrivent et qui disent moi, j'utilise VLC, mais il y a un bug. Moi, je utilise ça avec ça, ça ne marche pas bien. Et voilà, ils veulent juste réparer, quoi. Et ça, t'as vraiment cette culture très libertaire autour des communautés open source.
Est-ce qu'il faut de l'argent pour que VLC continue de fonctionner correctement, soit updaté justement, etc. Est-ce qu'il faut payer des gens? Est-ce qu'il faut du personnel, des infrastructures?
Oui et non. Alors, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai créé une association en 2008. Donc j'ai fait sortir tout VLC de l'école centrale. Justement, après que ça faille mourir, j'ai créé une association et l'association, elle est sustainable, quoi. C'est-à-dire qu'elle tient toute seule. Elle récupère des dons sur le site web. C'est un don et à coût de 4.
Qui donne
Plein de gens, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Autrichiens, et pas mal d'Américains à coût de 4 euros ou de 5 euros sur PayPal.
Et du coup, par an, vous arrivez à récupérer combien comme
ça? Ouais, 50, 60 000 euros par an.
C'est pas mal, hein? Comme ça, ils se disent « Ah tiens, c'est pratique ce truc, ouais. Ça m'a bien servi, ouais. Je vais donner de l'argent. »
Ouais, mais en même temps, quand tu compares à 500 millions d'utilisateurs, c'est nullissime. Toi, tu vois, c'est tes ordres de grandeur. Après, on ne fait pas un peu les... Tu m'excuseras du mot, on ne fait pas les prostituées comme Wikipédia qui te fait des grandes bannières « aidez-nous », alors qu'ils ont 100 millions en banque, tu vois.
Tu trouves ça pas bien que Wikipédia, qui a une dimension un peu comparable à VLC, c'est-à-dire que c'est de la mise à disposition du public pro bono, en l'occurrence d'informations. Tu trouves ça pas bien qu'ils fassent de la pub pour de l'appel aux dons?
Si, mais j'aime pas le mensonge. C'est-à-dire que les appels aux dons, c'est moins de 5% de leur utilisation, quoi. C'est moins de 5% de leurs frais de fonctionnement. Et ils te disent, attention, si tu donnes pas, Wikipédia va mourir.
Et tu penses que c'est pas vrai?
Non, je sais que c'est pas vrai.
Ah ouais.
Donc c'est ce que j'appelle du mensonge. Donc ouais, j'aime pas toi. Soyez franc, dites-le, on pense que c'est important que vous compreniez qu'il y a besoin de payer pour tenir Wikipédia. Ne dis pas, si jamais tu ne donnes pas, Wikipédia va mourir. Donc, en fait, moi, j'ai créé l'association Videolan et en fait, VLC pourrait tenir juste avec des bénévoles tout le temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2012, j'ai créé une société autour de VLC qui s'appelle Videolabs, qui, elle, emploie des gens qui bossent sur VLC.
Donc là, on est sur de l'emploi classique.
De l'emploi
classique.
Tu
payes des gens, des développeurs en CDI.
Exactement. Voilà. Et ça, ça permet d'accélérer le développement de VLC. D'accord ? Mais donc, si jamais cette entreprise, Videolabs, meurt, l'association sera toujours là, VLC sera toujours là. Comme tu auras moins de ressources, VLC avancera moins vite.
Et comment tu payes les gens de la société Videolabs ?
Eh ben, j'ai des contrats avec des gens qui ont des besoins, notamment beaucoup de grandes entreprises qui ont besoin de versions modifiées de VLC, de consulting en multimédia, etc.
Donc, tu as fini par financiariser, par monétiser, pardon, VLC.
En fait, c'est ce que j'ai fait, c'est l'équivalent d'une, ce qu'on appelle en France une ESN, ou avant on appelait une SS2I, une petite boîte de conseil, qui est du conseil autour du multimédia. Et en fait, ça permet d'avoir un pool de gens qui, dès qu'ils ont un peu de temps, bossent sur VLC. Ou alors, qui font des choses dérivées de VLC.
Donc en fait, ils font du service aux entreprises ou du consulting, ouais, et en plus, voilà, ils bossent sur VLC.
Exactement. La raison, c'est que moi, je voulais créer cette société. Donc à partir de 2011-2012, j'ai commencé à proposer à l'association de faire une société en dessous de l'association, qui soit une filiale de l'association, justement pour pouvoir payer les gens. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, plus le logiciel est difficile, plus rajouter un petit truc est difficile. Donc la complexité de bosser sur VLC, c'est beaucoup plus compliqué de nos jours. Il y avait les smartphones et les smart TV où les technologies sont beaucoup plus compliquées que le VLC traditionnel. Et surtout, en France, pour financer des entreprises, il faut être des startups, il faut avoir des subventions et elles ne sont jamais accessibles à des associations.
On va parler un tout petit peu de toi. T'as grandi dans quel genre d'environnement, toi ?
Plutôt intellectuel de gauche, catho.
T'as grandi à Paris ?
Ouais, j'ai grandi à Paris dans le 13e. Mon père, il était prof et ma mère, donc, prof d'université, donc relativement bien payée, mais quand même prof. Et ma mère, elle était prof par intermittence de français langue étrangère. On était 4 enfants, donc elle a jamais eu un vrai plein temps, sauf à partir du moment où on était grand, quoi. Donc, on a manqué de rien, mais on n'a jamais été très à l'aise.
Et donc, tu réussis brillamment tes études, puisque tu arrives à intégrer Centrale.
Moi, en fait, quand j'étais en 6e, j'ai découvert l'informatique. Et moi, j'ai bien aimé l'informatique. À la fin de mon lycée, en fait, moi, j'ai envie d'aller à EPITA, qui est donc une école d'informatique, d'ingénieur, mais quand même très informatique. Et mon père me dit, écoute, t'es mignon, mais ça coûte quand même 8000 balles par an. Et fais une prépa, et puis si jamais tu n'arrives pas à la prépa, on regardera pour faire EPITA. Donc toi, déjà, et je me suis retrouvé, j'ai fait une prépa, j'ai trouvé ça très cool, et à la fin de la prépa, j'avais beaucoup d'écoles, dont Centrale.
Qui était moins cher.
Et puis qui est gratuit, j'avais aussi Normal Sup ou Les Mines, et je suis allé à Centrale parce que je savais que Centrale, c'était une des écoles où il y avait une association informatique de bonne qualité, justement, qui faisait VLC. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Centrale. Mais c'est vrai que moi, j'ai un background culturel qui est catho de gauche, où l'argent, c'est pas... Enfin, ça doit jamais être une fin en soi.
Et il y a 20 ans, tu le vois venir, le potentiel de brassage de milliards qui est devenu aujourd'hui l'univers de la tech ?
Absolument pas. Absolument pas. Tu vois, en plus, moi, j'étais... Alors que j'aurais pu faire des trucs dès le lycée, tu vois, ça m'intéressait pas, tu vois. En 98-2001, quand j'étais au lycée, j'aurais pu faire de l'informatique, faire des sites web, etc. J'en ai fait très, très peu. Ça me gonflait.
Et quand tu vois VLC, quand tu commences à te mettre dans le projet, tu vois le potentiel ?
Mais en fait, personne ne l'a jamais vu. Personne ne voyait l'intérêt business, alors que c'est quand même un des sites web les plus consommés au monde. Il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques où il y a beaucoup de business opportunities qui ont été complètement ratées. On aurait pu faire beaucoup de startups et elles sont passées sous le nez. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand moi, j'ai refusé des sommes astronomiques, dont la légende, c'est que déjà, moi, je n'étais pas le créateur de VLC. Donc, moralement, c'était un peu difficile à justifier. Après, bon, tu peux toujours trouver des excuses pour le faire. La deuxième raison, c'était que ce qu'on proposait était immoral. C'était grosso modo foutre de la pub dans VLC, traquer les utilisateurs.
Mais est-ce qu'on peut avoir une carrière de dev aujourd'hui, ou une carrière dans la tech, sans jamais toucher à quelque chose que tu juges comme immoral ?
Par exemple, moi, je pense que j'ai jamais eu un contrat que j'ai fait où j'ai considéré que c'était immoral, quoi.
Mais ça veut dire que toi, tu t'interdis de bosser pour tous les plus gros, par exemple?
Non, parce que tout ce qu'ils font n'est pas immoral. Moi, je sais que on fait des trucs qui sont pour YouTube et pour Twitch. C'est pour YouTube et c'est pour Twitch. Voilà.
YouTube et Twitch, ça va?
Bah, ça pue, quoi. Mais c'est...
Pourquoi ça pue?
En fait, c'est pas ça. C'est que, par exemple, ce que je fais avec YouTube et Twitch, c'est qu'en fait, je leur demande des contrats de sponsoring pour des trucs open source.
Et voilà. Et c'est ça qu'on retombe sur le truc. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'open source, il faut qu'il y ait un moment du sponsor de...
Mais non, parce que si tu le fais bien, et c'est ce que je m'efforce à faire, c'est que ça n'est que de l'accélération. C'est-à-dire que si tu ne l'as plus, le projet est toujours là. C'est pour ça que, par exemple, tu as Videolan et Videolabs, qui sont deux entités différentes. Si Videolabs n'est plus là, Videolan est toujours là. Donc, en fait, moi, j'ai justement fait ce distinguo qui fait que, en fait, tu as toujours un fusible qui est pas grave.
D'accord. Donc, Videolabs, en quelque sorte, qui est la boîte. Exactement. Vous avez un chiffre d'affaires de peu près combien?
Ça doit être entre 1,6 million et 2 millions par an.
Pour combien de salariés?
Ouais, 18-20.
C'est pas mal, c'est une belle...
C'est pas mal, non, c'est bien, c'est pas mal. Boîte, ouais. En fait, et j'ai fait la même chose sur... Donc, il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai fait ça. La même chose sur deux autres boîtes, sur deux autres projets open source qui sont à côté de VLC, qui s'appellent FF Labs et Codec Labs, qui sont deux autres sociétés. Il y en a une, il y a 6 personnes, et l'autre, il y a 2 personnes. Enfin, donc, j'ai finalement des petites boîtes autour de l'open source. Aujourd'hui, j'en ai 5, plus une filiale en Allemagne.
Du coup, t'es riche?
Alors, c'est compliqué, mais grosso modo, pendant très longtemps. Donc, quand j'ai lancé Videolabs, en fait, bah, comme je suis le seul actionnaire, je n'ai pas levé des fonds. Tu vois, je ne suis pas dans une logistique de start-up. Y a des mois où je ne me payais quasiment pas. Et comme tout patron de PME, hein, etc. Et pendant très longtemps, j'étais entre 50 et 60 000 euros par an.
Ah, maintenant, tu dois avoir beaucoup plus, non, avec,
Maintenant je peux... Enfin, en tout cas, on me propose des rémunérations qui sont justement délirantes. Plusieurs centaines de milliers d'euros par an.
Pour faire quoi?
Pour être CTO de start-up ou de groupe ou de sous-groupe ou des choses comme ça. VP Engineering pour des grosses boîtes.
Et tu le fais?
Pour le moment, non.
Pourquoi?
Parce que c'est chiant.
Toi, t'es pas millionnaire, par exemple.
Ça veut dire quoi, être millionnaire?
Ah bah, avoir au moins 1 million. Mais c'est facile.
Comment? En banque?
En patrimoine, ouais.
En patrimoine?
Ah, ça dépend de la valorisation de tes boîtes, tu veux dire? Ouais.
Alors...
Si tu vendais tout aujourd'hui...
En fait, est-ce qu'elles sont vraiment vendables, tu vois? Parce que tu vois, fiscalement, par exemple, tu vas valoriser une boîte, ce que maintenant je sais à peu près faire, ça va être une fois, deux fois ton chiffre d'affaires. Donc tu vas prendre même Videolabs, tu vas dire ça vaut 3 millions. Ok, mais en vrai, Videolabs, en fait, ça ne vaut que parce qu'il y a des gens dedans, le business model, il est... tu vois, c'est pas vraiment une boîte qui est très bénéficiaire. Donc, c'est pas vendable. En fait, c'est un truc autour de VLC, c'est très spécifique. Franchement, Et une partie de la valeur de Videolabs, c'est de l'intangible. C'est-à-dire, c'est le fait que c'est la plupart des développeurs de VLC qui bossent parce que je suis le président de Videolan, tu vois. Donc, la réponse, c'est sur du papier, peut-être. En vrai, non, pas du tout. Je peux te dire, demain, je gagne au loto. Je garde... je vais me garder 2 millions sur le côté et tout le reste, c'est investi dans les boîtes. C'est évident. Enfin, la question ne se pose même pas. Et en fait, si tu regardes un petit peu, donc là, tu vois, je t'ai dit, j'ai ce premier métier autour de Videolab. Je suis advisor tech dans 2 startups, 3 startups. Je suis investisseur dans une autre. Je suis en train d'en monter une autre.
Tu mets ton argent régulièrement pour monter des projets, de ton argent à toi, de ta poche.
Ouais.
Tu fais pas des levées de fonds forcément tout systématiquement
Non, justement. Là, c'est la première fois où je vais être dans un cas où je vais devoir lever des fonds dans une startup que je vais lancer là. Mais c'est rarissime, tu vois. Et puis, tu vois, en ce moment, je suis consultant pour vente privée, justement, pour faire de la technique. Moi, je vois beaucoup d'investisseurs qui viennent me demander des avis sur des startups, sur des boîtes. Voilà,
donc, tu fais payer tes conseils?
Ouais.
Très cher, j'imagine. Parce que maintenant, tu as un bon CV, tu es assez connu.
Je pense que la réponse, c'est pas assez cher par rapport à ce que je devrais faire payer. Mais oui.
T'es pas très bon pour te vendre?
Je suis nullissime. Et parce qu'en fait, je pense que le problème, c'est que l'argent ne m'intéresse pas en soi, en fait. En particulier, parce que je pense que les gens qui ont et j'en ai suffisamment autour de moi, qui ont l'argent comme but, sont des connards. Ça devient des connards. C'est le pouvoir corrompt absolument. Et donc, c'est pour ça que je pense que. Il est quasiment impossible d'être homme politique et de ne pas être corrompu. Et l'argent aussi. C'est très difficile d'avoir comme but l'argent.
Money. T'as c'est un discours extrêmement critique sur l'espionnage de nos données personnelles, sur, tous les mastodontes de l'industrie de la tech. Est-ce que tu penses que c'est l'argent qui les corrompt ?
Ouais, c'est évident. C'est que, clairement, Google, c'était une boîte qui était partie en mode do no evil, hyper positif, l'amélioration de la société. Et maintenant, c'est une boîte qui te cache de la pub dans des résultats pour que quand tu cliques, sans te rendre compte, tu cliques sur une pub. Ouais, c'est clairement parce que c'est un objectif d'augmentation des profits des actionnaires sans limite. Il y a plein de ces entrepreneurs chefs de start-up, ils ne le font que dans le but de s'enrichir, pas du tout parce qu'ils aiment leur produit, quoi.
Ça, c'est ce que tu vois généralement dans le biotope dans lequel tu évolues
Ah ouais. Non, mais tu vois, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de patrons de gros groupes qui s'emmerdent. Ça fait 10 ans qu'ils font tourner leur boîte, c'est toujours pareil. Parce qu'en fait, si le but, c'est de l'argent, ton seul but, ça va être dans nos magazines plus. Et ça, tu le vois pas mal aux États-Unis, un peu moins en Europe. Et c'est dommage parce que ton seul but, c'est de faire ça. Alors que justement, des bons entrepreneurs, des mecs intelligents, ils ont réglé le problème d'argent. Alors lui, ils sont plus au niveau du million, voire du dizaine de millions, ils sont centaines de millions en milliards. Mais ils créent, ils sont en train d'investir dans les nouvelles startups, ils sont en train d'investir dans les médias, dans l'énergie, dans le machin, dans l'agroalimentaire, etc. Ils ont le virus de la création et ils n'ont pas le virus de faire de l'argent. Trop de gens n'arrivent pas à... Parce qu'en fait, de l'argent, tu n'en as jamais assez. Ah, ce serait bien d'avoir 5. Ah, ce serait bien d'avoir 10. Non, mais tu te rends compte s'il y avait 20. Et puis surtout, tu rentres dans ce concours à l'ascenseur social où en fait, ta valeur sociale n'est qu'en fonction de l'argent que tu as.
Ça donne quand même une vraie reconnaissance. Je pense que justement, cette espèce de légende sur laquelle on est parti, où on te présente comme le type qui aurait pu devenir milliardaire grâce à VLC et finalement qui ne l'a pas fait, ça t'auréole d'un pouvoir de l'argent que tu n'aurais pas pris.
Ouais, ça veut dire que je suis pas le quidam moyen, donc on peut m'écouter. Des patrons de start-up en France, des licornes françaises, t'en as quand même plein. Y en a plein qui valent des dizaines de millions. Et puis là, c'est pas du virtuel, c'est des vrais millions, quoi.
Il y a en ce moment toute une espèce de fascination pour la, notamment dans d'autres podcasts, pour la réussite, l'entrepreneuriat, les recettes inspirantes ou les exemples inspirants. Tu crois à tout ça, toi ?
Il n'y a pas de recette. Surtout, je vais te dire un truc qui va peut-être un peu t'étonner, mais c'est que la plupart des mecs qui ont réussi dans la tech, une grosse partie, c'est de la chance. Persuadé. Et les mecs qui pensent que c'est juste parce qu'ils sont bons, soit c'est des menteurs, soit c'est vraiment des mégalos, quoi. Putain, en vrai, t'es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne techno, t'as le bon contact, c'est de la chance, c'est ta position, c'est... Ouais, sans venir à Bourdieu, enfin, c'est aussi ton capital culturel, et notamment en France, dans les startups. Quand tu regardes les PDG de startups, les mecs qui lancent des banques, en fait, leur papa, il a déjà travaillé en banque. Le mec qui lance une mutuelle, en fait, il connaît bien quelqu'un qui a été dans les histoires d'agrément dans les ministères pour être mutuelle. Il y a un capital social.
Et une reproduction.
Ouais, évidemment. Et puis, donc, il ne faut pas oublier le facteur chance. La facteur chance, c'est au moins 50% du succès. Par exemple, tu regardes Facebook, quoi. C'était pas le premier réseau social, même quand c'est lancé, c'était pas le mieux. Ouais, sauf qu'il est arrivé au moment en se focalisant sur une population où il était, parce que de toute façon, il utilise ça pour aller draguer, voire espionner les autres nanas.
Dans une grande université américaine.
Il avait des potes dans d'autres écoles américaines, ils avaient besoin du site web, c'était le bon moment. Ça s'est lancé, ça a eu ce côté élitiste. Tu vois ? Mais il y avait un coup de chance d'être au bon moment. Bien exécuté, c'est clé, c'est sûr, mais bien exécuté ne suffit pas. Moi, des startups qui sont pétées la tête alors qu'il y en a... Enfin, donner un exemple tout con, hein, Doctolib. Bon, Doctolib, c'est un mastodonte, c'est une grosse boîte, etc. Moi, je connais 3 startups qui ont lancé littéralement le même produit, même avant eux, notamment une boîte qui s'appelait Click Rendez-vous, qui faisait littéralement ce même truc, qui s'est fait racheter par les pages jaunes, qui était avant Doctolib, qui ne s'est pas focalisé assez sur les docteurs. Et puis voilà, c'est une boîte qui a été rachetée 1 million, 1,5 million. Et puis ça s'est arrêté là. Doctolib, ça vaut je ne sais pas combien de milliards. Donc, c'est une question de chance, du bon market fit, de la bonne... Voilà. Donc, les gens qui te disent... Enfin, les entrepreneurs à succès qui ne te disent pas qu'ils ont eu de la chance, voilà, soit c'est des menteurs, peut-être, et donc ils ont une image de marque, etc. Soit, bah, ils ont vraiment un gros melon. Chut. Déjà, traditionnellement, la tech, c'est les hommes. Et surtout, en fait, il y a un facteur risque. C'est-à-dire qu'il faut, il faut prendre un risque.
Et les hommes prennent plus de risques ?
Ouais. Bah, d'ailleurs, quand tu prends une assurance auto et que tu as une femme, normalement, tu as des prix moins chers qu'un homme. Parce qu'évidemment, de façon de base, la société que tu appelles patriarcale, ce que tu veux, etc., j'en sais rien, la société a toujours favorisé le fait d'être sage pour une femme et de prendre des risques chez les hommes. Ça, c'est de moins en moins le cas, etc. Mais c'est quand même pervasif dans la société occidentale.
Dans les patrons de start-up que tu rencontres, les créateurs de start-up, il y a peu de femmes.
Très, très peu. Très, 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 très peu. Et d'ailleurs, t'es obligé de faire des communautés qui sont Women in Tech, Women in Digital, etc. C'est bien que justement, enfin, tu ne veux pas des trucs Man in Tech parce que tu n'as que ça.
Est-ce que tu as déjà connu des échecs financiers ?
Le rachat de Shadow.
Tu as perdu combien à peu près ?
Je ne sais pas. Ça a dû me coûter 50 000 balles, quoi. Ouais, ça commence à faire chier, quoi.
C'est la moitié, la moitié d'une année de salaire pour toi, à peu près ?
À peu près, ouais. Il ne faut pas que ce soit un problème.
Et est-ce que tu as déjà fait des gros coups ?
Non. J'ai revendu des projets qui ne sont pas forcément connus, mais c'est des sommes qui sont dans centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. En fait, aujourd'hui, par exemple, sur la partie Vidéolan et les startups de Vidéolan, le premier pôle dont on a parlé tout à l'heure, en tout, ça fait 3 millions de chiffre d'affaires, ça fait 30 personnes, tu vois. Mais même 100 000 euros au niveau... Enfin, c'est la masse salariale que je dépense chaque mois, elle est au-dessus de ça. J'ai un autre truc là dans la startup que je vais lancer, que je suis en train de lancer. Ça va être une startup, il y a déjà 12 personnes. Tu vois, 12 personnes, c'est-à-dire que déjà, par mois, tu es à 100 000 balles, quoi. En fait, je suis dans le cas un peu étonnant qui est un peu de la PME, tu vois, de la PME numérique. C'est pas ce dont on parle, tu vois, c'est... Ce qu'on fait sur VLC, c'est de l'artisanat numérique et t'es dans de la PME numérique où il faut faire attention, t'es en contact avec tout le monde, tu vois, t'as des équipes de 20-30 personnes.
Alors, t'as des luxes, tu fais quoi de ton argent à toi quand tu le dépenses pour toi ? Tes plaisirs ou tes...
J'ai pas beaucoup de plaisirs qui coûtent cher.
T'es propriétaire ?
Exactement. Donc là, en ce moment, c'est pour ça que ce que je disais, là, cette année, donc je suis en temps partiel chez vente privée où justement je facture. Parce qu'en fait, je suis en train de racheter, j'ai racheté une maison à crédit, hein, full crédit, et j'ai des travaux.
T'as acheté une maison à Paris ?
Non. Une maison à Paris, il faudrait avoir plusieurs millions. Non, juste en banlieue parisienne, sur le métro, entre Villejuif et le Kremlin-Bicêtre. Parce que justement, je voulais être proche du métro, quoi, et pas du RER. Tous mes loisirs numériques coûtent très très peu. Je lis beaucoup, mais les livres, ça coûte vraiment pas cher. En livres qui coûtent le plus cher, c'est les achats de BD. Tu vois. Mais à un moment, tes BD, tu vois, t'as une limitation de place qui arrive. Et puis même, tu vois, une BD, ça coûte 15 balles. Quoi. Même si t'en achètes 1000, et encore imagine 1000 BD, t'es à 15 000 balles. Tu vois, t'es pas dans des loisirs.
En fait, à part la baraque, t'es du genre à pas dépenser tout l'argent que tu gagnes en réalité pour toi.
Bah, tu sais, j'ai des enfants.
T'as deux enfants, ouais, c'est ça, en bas âge.
En bas âge, t'as des crèches, enfin, tu vois, t'as des choses comme ça, t'as un peu de vacances.
Tu comptes ce que tu dépenses ?
Non, mais je sais exactement combien j'ai sur mon compte non-stop. Moi, quand j'étais petit, ma maman, elle m'a appris, dès que j'ai eu un compte en banque, ce qui a dû m'arriver, j'imagine, à 12 ans, on garde toutes les factures, toutes les facturettes, et on pointe tous les trucs. Alors, moi, j'ai été élevé comme ça. Et j'ai une assez bonne idée, une très très bonne idée de combien il y a sur tous mes comptes, combien j'ai dépensé, et aussi sur toutes mes boîtes. Sur toutes mes boîtes, je sais au centime près ce qui a été dépensé. Et là, j'ai des fichiers Excel un peu monstrueux, mais à toi, par exemple, quand je vois mon comptable, il me dit « mais vous êtes au centime près ». Ouais, ben moi, ma comptable est juste au centime près, il n'y a pas d'approximation.
Et quand tu vas faire des levées de fonds et que tu vas demander des grosses sommes à des gens ?
Je ne sais pas faire. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui le fais. En fait, pour lever des fonds, il faut avoir une partie de vendeur, tu vois. Je ne vais pas dire que c'est du bullshit, mais il y a un petit côté un peu, etc., où tu racontes un peu plus, tu fais un peu rêver, mais ça fait partie du jeu, quoi. Tout le monde le fait, et donc les deux parties le savent. Moi, je ne sais pas faire ça.
Ça te met mal à l'aise ? T'as l'impression de mentir ou de frimer ?
Non, je ne sais pas,
de...
je vais être honnête, quoi. Je vais vraiment être honnête. Je dis, ah non, mais ça va être compliqué.
Mais c'est pas comme ça qu'il faut le présenter pour...
Jamais.
Non.
Jamais.
On a l'impression que les startups, c'est un endroit où il y a beaucoup d'argent qui est investi éventuellement à perte.
Oui. C'est vrai. Donc, en fait, il faut se dire que sur 100 projets, t'en as 20 qui vont lever des fonds. Et t'en as 80, ça va être juste un mec qui va travailler avec son temps, il va lancer un truc et il va s'arrêter. Okay, donc, t'as déjà 20 qui vont lever des fonds. Sur ces 20 qui vont lever des fonds, les investisseurs espèrent que t'en aies un ou deux qui explosent, deux ou trois qui soient à zéro et qu'à la fin, se fassent rentabiliser, et les 15 autres, zéro.
Poubelle.
Poubelle. Comme il y a un facteur chance énorme, contrairement à ce que les mecs qui ont réussi te disent, bah en fait, tu sais pas ce qui va fonctionner. Donc, t'essayes tout. Et surtout, l'échec est bien rewardé. C'est-à-dire que un mec qui s'est planté, c'est souvent une bonne chose. Parce que s'il est capable d'expliquer pourquoi il s'est planté, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il fera beaucoup plus, il fera beaucoup plus attention et il apprendra. Alors que justement, des mecs, ça c'est un truc que tu vois t'entends, c'est des mecs qui ont réussi une première start-up, notamment grâce à la chance, mais ils n'ont pas fait cette introspection et ils lancent un autre projet, ils prennent plein d'argent et là ils vont dans le mur direct. Et ça, c'est un coup très très classique de second entrepreneur qui n'a pas galéré pour la première. Tu vois, c'est la même chose quand on dit que les meilleurs profs, c'est ceux qui ont un peu galéré en fait dans leurs études.
À l'école, ouais.
À l'école, parce que justement, ils ont eu à surmonter ce problème. Donc,
toi, tu continues à bosser beaucoup en informatique.
Ouais, ouais.
Tu travailles combien d'heures par semaine à peu près?
Je suis pas sûr de vouloir répondre à cette question.
Ah, mais genre, tu travailles vraiment beaucoup, beaucoup?
Ah oui.
Tu prends des vacances?
C'est quoi les vacances?
Ah, tu fais pas de coupure?
Très, très peu.
T'es parce que t'es passionné ou parce
ouais.
que...
Ouais. Ouais.
C'est quasiment c'est professionnel, moi, quoi.
Non, mais... Non, mais c'est vrai que ouais, je fais des heures importantes, quoi.
Vraiment. Tu travailles le soir, tu travailles...
Ouais, évidemment.
Ah ouais, c'est vraiment...
Ah oui, complètement... ah non, ça par contre, il n'y a pas de secret, hein, y a travail. Hein. Et puis je suis très efficace, hein, je n'ai pas le choix.
Je crois que dans le fantasme, il y a aussi l'idée que les startups, ce seraient des petites entreprises comme ça, innovantes, florissantes, avec des gens qui seraient un peu indés, ou en tout cas des nouveaux entrepreneurs.
Alors ça existe, mais c'est de plus en plus rare. Et ça, c'est ce que tu vois depuis quelques années, c'est que les levées se sont... Et moi, je crois que c'est jusqu'à 2016, hein, à peu près. Et là, tu as un vrai shift où les levées de fonds sont délirantes. C'est-à-dire qu'on est passé, tu vois, avant, tu faisais une levée de 4-5 millions, c'était quand même pas mal à Paris. Maintenant, 4-5 millions, personne n'en parle.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Beaucoup d'argent dispo. Beaucoup plus d'argent sur les marchés qui sont disponibles. Et deux de ces conséquences, c'est l'envolée que tu as eu des cryptos et l'évaluation de startups qui se sont envolées. Aujourd'hui, tu as des trucs où la valorisation d'une boîte, elle est à 3 milliards alors qu'il fait 20 millions de revenus par an. Tu vois, et là, tu n'es même pas en bénéfice. Donc, c'est complètement décorrélé. Ça, c'est un truc qui s'est accéléré sur les 4-5 dernières années, qui a peut-être s'arrêté avec là, justement, avec les débuts de la crise qui arrivent. Voilà. Donc, c'est vrai que les levées de fonds aujourd'hui dans les startups sont vraiment délirantes, ou en tout cas ont été délirantes jusqu'à il y a un mois à peu près. Et donc, dans ces cas-là, tu as une croissance qui est une hyper-croissance délirante. Donc, évidemment, tu as eu des déchets en interne. Tu as des process qui n'ont pas de sens. Tu fais des trucs où des gens travaillent, finalement, ça ne sert à rien. Tu as des grands branleurs. Voilà.
Bonne chance. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kampf.
De rien. Merci de m'avoir fait venir.
Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production en est assurée par Jean-Paul David sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant thune podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.